Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, édition spéciale consacrée au retrait militaire de la France et de ses partenaires du Mali. Nous parlerons également de la présence de plus de 40 dirigeants à Bruxelles pour le sommet Union africaine et Union européenne. Nous sommes le jeudi 17 février 2022. Jean-Roger Billon à ce micro. Bonsoir à tous et bienvenue. Le retrait des forces françaises présentes au Mali, annoncé ce jeudi matin, consacre la rupture entre la France et les autorités maliennes après des mois de dégradation des relations et de surenchère verbale après deux coups d'État en 2020 et en 2021. Le président Emmanuel Macron a réfuté jeudi tout échec de l'intervention militaire française et présente ici le nouveau dispositif français dans le Sahel.
Nous avons commencé à fermer des bases au nord. Nous allons donc progressivement fermer, dans un exercice qui va prendre 4 à 6 mois, les bases qui sont présentes au Mali. Pendant ce temps, nous allons déployer des forces importantes fois logistiques et de sécurisation de notre retrait, de même que nous allons continuer d'assurer les missions de sécurisation de la MINUSMA. Nous allons faire ce travail donc de réarticulation du dispositif en bonne intelligence avec les armées maliennes que nous connaissons bien, que nous avons beaucoup formées, équipées et financées. Vous avez totalement raison de dire que dans ce contexte, il y aura moins d'opérations de lutte contre le terrorisme. De fait, compte tenu des choix de la junte malienne, il y en a moins eu dans les zones où elle est exposée, puisqu'elle a décidé de ne beaucoup moins travailler sur ce sujet.
Emmanuel Macron, le chef de l'État français, lors de la conférence de presse qui a suivi le conclave entre la France et ses partenaires du Sahel. Plusieurs dirigeants africains ont commencé à réagir à l'annonce du retrait des forces françaises et européennes du Mali. Le président sénégalais Macky Sall a estimé depuis Paris que le combat contre les groupes djihadistes au Sahel ne saurait être la seule affaire des pays africains. Le point avec Nani Talani.
Nous comprenons cette décision, a déclaré le président sénégalais Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, dans une conférence de presse conjointe avec le président Emmanuel Macron.
Mais surtout, nous avons convenu avec l'Europe que la lutte contre le terrorisme au Sahel ne saurait être la seule affaire des pays africains. Et là-dessus, c'est un consensus et c'est heureux qu'un engagement a été renouvelé de rester dans la région et de réarticuler le dispositif.
Nous ne pouvons pas laisser les unités terroristes s'installer de manière permanente en Afrique de l'Ouest, a renchéri Nana Akufo-Addo, président du Ghana et président en exercice de la CEDEAO. Hier, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a estimé que le retrait des forces Barkhane et Takuba du Mali crée un vide qui va obliger les armées ouest-africaines à être en première ligne dans la lutte contre les djihadistes au Sahel. Nous considérons que la lutte contre le terrorisme est quelque chose d'essentiel pour le Mali, pour le Burkina, pour le Niger et pour les pays côtiers, a assuré le président ivoirien. La décision de retrait des troupes françaises du Mali après 9 ans de présence intervient dans un contexte de crise aiguë entre Paris et Bamako.
Avec le retrait militaire français du Mali et la fin annoncée de l'opération Barkhane, une page se tourne pour les armées françaises après 9 ans de présence au Mali. Paris est intervenu en 2013 pour enrayer la progression des groupes djihadistes qui menaçaient Bamako. Depuis 2013, 53 soldats français ont été tués au Sahel, dont 48 au Mali. Paris affirme avoir éliminé Abdel Malek Drogdel, le leader d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, tout comme Abdou Adnan Al-Sarawi, chef du groupe État islamique au Grand Sahara qui a décimé la région du Liptako à la frontière entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Pour revenir sur l'historique de la présence française au Mali, Eric Manirakiza a joint à Bamako le journaliste Shahana Takiou.
Le contexte de l'époque, le Mali était envahi par des djihadistes. Nord n'était pas sous contrôle du Mali. Les djihadistes avaient avancé jusque dans le centre du pays, précisément à Kona, où le président de l'époque, Diankouna Traoré, demandait une intervention française pour empêcher l'avancée des djihadistes vers Bamako. C'est au pouvoir. La France a vigoureusement réagi, les djihadistes étaient dispersés, j'allais dire, ils ont été combattus. Et Paris a libéré certaines régions du Nord, notamment Tombouctou, Gao, malheureusement empêché aux troupes maliennes d'entrer dans le centre des terroristes, ce qui n'a pas été libéré. Le mouvement armé et leurs alliés qui étaient à l'époque les terroristes restaient à Kidal. Donc, ça a suscité beaucoup d'inquiétudes, de critiques envers Paris. C'est vrai que les Maliens étaient très contents de l'intervention française, mais le fait que le travail ait été fait à moitié laissait beaucoup de gens sceptiques, a été critiqué par les observateurs avertis à l'époque.
Oui, vous parlez du contexte. Mais la France a payé un lourd tribut aussi. Elle a perdu des soldats. Le Mali a perdu des soldats aussi.
Absolument. La France a payé un lourd tribut. Le Mali également a perdu des dizaines, voire des centaines de soldats payés à leur âme. On ne peut pas aller à un combat de ce genre en vie humaine. Ça a déploré du côté français comme du côté malien. Ça fait des sacrifices, malheureusement. Les sacrifices menés par la France ont produit les résultats escomptés. Nous avions espéré, pensé que l'intervention française allait lutter efficacement contre les djihadistes. Le résultat, ce n'est pas le cas. Le djihadisme a eu des beaux jours devant lui. Et du nord du Mali, le phénomène s'est déplacé jusqu'au centre du Mali et aujourd'hui au sud du Mali. Le djihadisme, le terrorisme, si vous voulez, a gagné du terrain en République du Mali, malgré la présence française avec les moyens dont il est crédité, la présence tunisienne, cela n'a pas empêché au terrorisme de prospérer au Mali, qui fait dire à beaucoup de Maliens l'arrivée de Paris. Donner les résultats comptés que Paris n'a plus sa place au Mali.
Shahana Takiou, journaliste malien, joint à Bamako. Comment le départ annoncé des troupes françaises du Mali pourrait impacter la lutte contre le terrorisme dans la région? Abdourahman Dia a posé la question à Bakary Issam, directeur de Timbuktu Institute.
Moi, je pense que l'inquiétude est aujourd'hui grande, car la sécurisation du territoire malien n'est pas seulement un enjeu malien, mais régional. Tous les pays voisins du Mali sont désormais encore plus confrontés à la problématique du débarquement de l'épicentre malien, tel que cela a pu être le cas au Niger ou au Burkina Faso. Et de plus, je crois que la présence de Wagner dans une région donnée pose toujours des problèmes en termes d'instabilité dans les pays voisins.
Alors, Paris annonce un redéploiement de ses forces dans la région. Qui pourraient être ces pays qui pourraient accueillir ces soldats français?
Il y a deux directions possibles. Le Niger, qui semble évident, avec les récentes visites de Florence Parly et les voyages de Bazoum en termes de redéploiement. Mais je suis sûr que aussi les pays côtiers, tels qu'on en parle maintenant, la Côte d'Ivoire abrite désormais l'Académie internationale du contre le terrorisme, avec la présence de forces françaises. Le Sénégal, naturellement, qui a des éléments français, mais aussi les pays côtiers, si on prend en compte les incidents qu'on commence à noter au nord du Bénin, du Togo. Et je pense qu'il y aura un dispositif de redéploiement, aussi bien au Niger, mais aussi en Afrique de l'Ouest, qui pendant très longtemps a été exempt de l'ensemble sahélien et en privilégiant toute l'action militaire sur le Sahel central. Là, on va assister à un véritable débordement de ces épicentres-là. Mais du moment que la présence française a soulevé tellement de protestations aussi dans un pays comme le Mali, on a vu ce qui s'est passé au Burkina, on ne sait pas quelle sera la réaction des populations dans une sous-région où souffle un vent puissant de nationalisme et de souverainisme.
Le président Ouattara de Côte d'Ivoire a dit que ce départ annoncé des troupes françaises devrait pousser pratiquement les autres pays à s'armer davantage. Est-ce qu'on ne craint pas, disons, un armement à outrance dans la région?
On est déjà entré dans l'ère de la militarisation à outrance de la lutte contre le terrorisme, de la même manière que cette erreur a été commise au début de la crise sahélienne. Maintenant, l'approche militarisée va être privilégiée au détriment de l'approche préventive dont certains pays pourraient se saisir. Et aujourd'hui, cette militarisation à outrance a deux conséquences. La négligence des causes structurelles, des causes profondes du terrorisme, telles que la malgouvernance, la pauvreté, etc. Mais de notre côté, le fait d'attiser des tensions intercommunautaires, parce que quand on vide des zones et des populations données, on est en train de semer les germes potentiels et futurs des conflits intercommunautaires qui ont envenimé le Sahel en plus de la question terroriste.
C'était Bakary Sam de Timbuktu Institute, joint à Dakar au Sénégal. Cela dit, les dirigeants européens et africains ont entamé aujourd'hui à Bruxelles un sommet Union européenne et Union africaine sur leur partenariat quelques heures après la décision de la France de retirer ses troupes du Mali. Nathalie Barge.
Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a prévenu que l'Europe ne pourra pas aider une Afrique où règne l'insécurité, soulignant que coups d'État, conflits, terrorisme, trafic d'êtres humains et la piraterie ont un impact sur l'Europe. La lutte contre la pandémie est une autre priorité. Seulement 11% de la population du continent africain est entièrement vaccinée. L'Union européenne a donné 150 millions de vaccins à l'Afrique et va poursuivre cet effort. Elle soutiendra aussi la création de centres de production de vaccins au Sénégal, au Rwanda, au Ghana et en Afrique du Sud. Les Européens veulent également revoir leur soutien financier. Une stratégie globale d'investissement dotée de 150 milliards d'euros sur 7 ans est prévue pour aider des projets voulus et portés par les Africains. Autre priorité, le climat et l'énergie. Le Sénégalais Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, a déclaré que l'Afrique demande plus de justice climatique et un accompagnement pour donner de l'électricité à 600 millions d'Africains.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste de l'actualité aujourd'hui, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a présenté devant le Conseil de sécurité des Nations Unies l'engrenage qui pourrait mener, selon Washington, à une invasion de l'Ukraine par la Russie dans les jours à venir. Le chef de la diplomatie américaine a accusé Moscou de vouloir fabriquer un incident qui pourrait inclure une force, voire une vraie attaque à l'aide d'armes chimiques pour attaquer l'Ukraine. La Russie pourrait décrire cet événement comme du nettoyage ethnique ou un génocide. À Moscou, l'on nie toute intention belliqueuse. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a jugé que les allégations de Washington ne faisaient qu'attiser les tensions. Les Libyens célèbrent aujourd'hui le 11e anniversaire du début de la révolution qui a renversé Muammar Kadhafi en 2011, au moment où la transition vers la démocratie connaît de nouveaux écueils qui font craindre une reprise des hostilités. À l'occasion de l'anniversaire de la révolte déclenchée en plein printemps arabe, les principales avenues de Tripoli ont été pavoisées de rouge, noir et vert, couleur de l'emblème national adopté après la chute de l'ancien régime. Concerts, chants révolutionnaires, feux d'artifice, des célébrations sont prévues demain vendredi, place des Martyrs au cœur de Tripoli, où l'ancien guide aimait prononcer ses discours avant d'être emporté par la révolte déclenchée le 17 février 2011. Le président congolais Félix Tshisekedi a mis en garde ce jeudi les officiers contre des cas d'indiscipline et de mauvaise gestion des fonds dans l'armée en République démocratique du Congo à l'origine de certains échecs face à des groupes armés. Le chef de l'État congolais s'exprimait lors d'une cérémonie d'échange de vœux avec les officiers supérieurs de l'armée et de la police. Il a dénoncé la mauvaise gestion de fonds et du matériel mis à la disposition des commandants d'unité. L'armée congolaise mène plusieurs opérations militaires dans l'est du pays, notamment dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, placées depuis mai sous état de siège. La justice zambienne, elle, a déclaré ce jeudi illégal la fermeture en 2016 du principal journal indépendant du pays, le Poste, sous le régime répressif de l'ancien président Edgar Lungu. The Post avait été fermé 2 mois avant l'élection présidentielle sur ordre du fils qui lui reprochait plusieurs millions d'euros d'impôts impayés. Il avait ensuite été placé en liquidation. Une éventuelle réouverture de la publication qui employait 1500 personnes reste toutefois incertaine.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour explorer davantage la rupture militaire entre la France et ses partenaires et le Mali. Les Maliens ont suivi attentivement à la radio ou sur les réseaux sociaux la confirmation venue de Paris du départ de partenaires avec lesquels les soldats maliens ont combattu les djihadistes pendant 9 ans. Exit donc Barkhane, Takuba et autres. Une décision qui fait suite à l'escalade de tensions entre les autorités de la transition malienne et les autorités françaises. Notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko, a recueilli les avis des citoyens maliens à l'annonce de cette décision.
Je pense que leur départ est imminent parce qu'ils sont là depuis 9 ans ou 10 ans. Le bilan est catastrophique. Je ne sais pas pourquoi ils vont rester encore.
Pour leur départ, je suis trop content, absolument content même. 9 ans sans résultat. Vraiment, que ce soit le début du commencement d'un nouveau Mali, que nous tous on désire.
Bon, Barkhane et Takuba, bon, moi, personnellement, moi, je ne vois pas l'utilité de ces deux mouvements-là, parce que plus précisément au Mali ici, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas comment dresser l'utilité, ce qu'ils font, et puis ce qu'ils montrent, ce qu'ils disent aussi, quoi. Ce qu'ils disent et ce qu'ils font, ce ne sont pas les mêmes, quoi, ce que je me fais comme ça. Pour moi, personnellement, moi, je ne vois pas comment dresser place ici.
Bon, quand même, c'est un peu inquiétant, parce que si nous voyons que la force Takuba et puis Barkhane sont partis, parce qu'ils jugent nécessaire que les conditions ne sont plus réunies pour être au Mali. Bon, peut-être qu'il y a une mésentente diplomatique entre le pouvoir en place, c'est-à-dire les autorités de la transition et le gouvernement français.
Le départ des forces Barkhane, c'est quand même déplorable. À moi, je déplore la manière. Donc quand je dis déplore, c'est la manière de leur retrait. Parce que on pouvait les faire, parce que quand on les a appelés, c'était juste pour un appui aérien, tout le monde le sait. On ne voulait pas que la guerre s'enlise et qu'on ne voulait pas aussi que ça perdure ou ça dure. Et ça a duré 8 ans, 9 ans de présence.
Le départ de l'armée française était presque prévisible au regard du contentement presque généralisé dans le pays. Et cependant, il faut reconnaître que l'intervention française en 2013 a été salutaire pour le Mali. Elle a dû sacrifier, sinon elle a dû faire beaucoup de sacrifices pour notre pays. Malheureusement, au fil du temps, le résultat militaire n'était pas efficace.
Les Maliens se sont gardés de toute effusion spontanée ou organisée qu'aurait pu laisser augurer les expressions d'animosité des derniers mois contre l'engagement militaire français. Notre correspondant à Kaï, Issa Batili, a pris le pouls des populations dans le Mali profond.
La brouille entre Bamako et Paris ne fait plus aucun doute. La France annonce la fin de l'opération Barkhane au Mali. Malgré leur nombre important et tous les moyens à leur disposition, Barkhane n'arrive pas à assurer la sécurité du pays. Abou Samba Lamine Thiam.
On voit qu'il y a 5000 militaires français au Mali. Et tous les jours, on va du mal en pire.
Cette présence de Barkhane au Mali n'a pas freiné la progression des terroristes. Harouna Soumari, commerçant.
Après 9 ans, je suis entièrement pour le retrait de l'armée française.
Pourquoi ?
Tout simplement parce qu'à 8 ans déjà d'existence, ils n'ont pas pu réaliser quelque chose. Il faut le dire que le bilan, il est négatif. Le bilan est négatif. C'est le nombre de personnes mortes qui ont augmenté, le nombre de déplacés a augmenté.
Quant à Wayo Koulibaly, enseignant, il affirme également que cette présence de Barkhane au Mali n'a rien servi.
En tout cas, par rapport à la sécurité, ça n'a rien apporté. Donc c'est pourquoi les Maliens, d'une manière générale, sont unanimes pour le départ de cette force Barkhane.
Ce départ peut engendrer des conséquences, nous dira Suleiman Bamba, promoteur d'établissements scolaires.
Le contexte dans lequel la France se retire, donc on peut penser que ça peut laisser quand même des poches d'insécurité. Et surtout, ça peut amener les djihadistes, sinon les terroristes, à saisir l'occasion pour pouvoir reprendre la main sur certaines localités.
Les autorités maliennes et françaises devaient se retrouver autour de la table pour revoir leur position. Mamou Souko, conseillère municipale.
J'aurais préféré que les autorités maliennes et françaises s'asseyaient et sur la table et discutaient pour trouver un compromis vraiment sur des nouvelles bases.
Et Draman Dabo d'ajouter que
le gouvernement malien devait encore négocier une autre façon de collaboration pour que ces gens-là puissent nous aider à recouvrir la totalité de notre pays.
Il faut rappeler que depuis un certain temps, l'armée malienne monte en puissance. Issa Bakary Batile, Kay, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, pays voisin du Mali et également ravagé par la crise sécuritaire, les populations sont partagées sur le départ des forces françaises et européennes de Ouagadougou, la correspondance de Lamine Traoré.
À Ouagadougou, c'est l'actualité du jour. L'armée française et ses alliés quittent le Mali. Inquiétude et interrogation dans la capitale burkinabé.
Toutes les solutions qui vont amener la paix et la sécurité devraient être prises en compte. Donc si Barkhane était vraiment la solution, bon, ça va être vraiment quelque chose de moins.
Pour moi, c'est une bonne nouvelle déjà que la France se retire du Mali. Parce que ça ne sert à rien de dire qu'on vient soutenir un pays et on ne voit pas un changement en fait. Des gens qui continuent à mourir et ce n'est pas du tout intéressant. Au moins la France, c'est pas un petit pays quand même. Si elle se dit qu'elle vient, si elle dit qu'elle vient aider un pays, quand même, on va sentir un changement. Mais de là, tout le temps, la France est là, on voit même pas de changement. Moi, c'est une bonne nouvelle. Parce que ça va aussi laisser au peuple malien de montrer leurs preuves et de montrer au monde entier qu'ils peuvent se développer d'eux-mêmes.
On devra revoir, nous les Burkinabés et les forces du Sahel, comment combler ce manque-là du départ des forces Barkhane. Parce que ça sera un grand vide, ça sera un grand vide. Je sais que les forces Barkhane avaient des bases au Mali, des bases stratégiques à partir desquelles ils opéraient dans le Sahel. Donc ça sera vraiment un manque pour nos pays.
Les analystes et autres experts en sécurité, eux aussi sont inquiets. Ce retrait pourrait être synonyme avec la multiplication de la violence à la frontière Burkina-Mali. Mamoudou Savadogo est expert en sécurité.
Ce retrait est quand même un peu catastrophique parce que c'est un retrait qui n'a pas été préparé. Ça veut dire que ça va laisser un vide, un boulevard pour les groupes armés terroristes qui sont en train de progresser. Et ce retrait aussi pour moi c'est comme un aveu d'échec de la part des Barkhane parce qu'on n'a pas senti une amélioration entre leur venue et leur départ. Cela aura pour conséquence effectivement d'ouvrir une brèche au niveau de la bande frontalière entre le Burkina et le Mali parce que déjà c'est la partie qui était la plus menacée et c'est la partie quand même où Barkhane arrivait à contrôler un peu et à mettre la pression sur les groupes armés terroristes. Donc il y a de fortes chances que cette partie et le niveau de violence augmente dans cette partie.
De plus en plus, Barkhane opère au Burkina. Il a annoncé la neutralisation de plusieurs dizaines de présumés terroristes ces derniers jours au nord du pays. Cette semaine, le chef d'état-major des armées de France a échangé au téléphone avec son homologue burkinabé, a annoncé l'état-major français des armées. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Direction maintenant le Sénégal. Dakar, les Sénégalais réagissent favorablement. C'est ce que nous dit notre correspondant à Dakar, Seydina Bagay.
Le retrait des troupes françaises est globalement bien accueilli par les Sénégalais que nous avons rencontrés. Pour eux, les États africains doivent se départir du joug occidental. Alun Badarafal, agent commercial.
Bon, je dirais que je suis pour le retrait de la France en général sur le territoire africain, et en particulier des soldats français dans nos périmètres. Et je ne pense pas que leur retrait puisse impacter sur nos frontières, les frontières sénégalaises. Vu que bon, on a une bonne armée qui est très bien entraînée et qui s'est très bien préparée. Donc, j'ai confiance en nos forces de l'ordre et en notre sécurité. Et qu'il est temps que l'Afrique soit indépendante du point de vue militaire.
Pour Abdou Diop, le retrait des soldats français est normal si c'est l'aspiration du peuple malien. Pour lui, les dirigeants africains doivent avoir une posture plus conséquente dans leurs relations avec les puissances occidentales.
Si les militaires français n'ont pas d'utilité pour le Mali ou si les relations sont dégradées, il vaut mieux se séparer. L'essentiel, c'est que que les Maliens soient prêts pour cela et que ça soit leur aspiration légitime. Je pense que nos dirigeants doivent plus penser aux populations dans leur gouvernance, car ils sont que des délégués du peuple, donc toutes leurs décisions doivent être l'émanation de la volonté populaire. Ils doivent aussi accompagner la population, peu importe les circonstances.
C'est une question de souveraineté pour Pape Colissard, consultant. Selon lui, c'est le moment pour les États africains de prendre leur sécurité en charge.
Que va devenir nos pays si on ne peut pas assurer notre propre sécurité? Si on pense que le retrait des troupes françaises au Mali n'est pas une bonne chose, autant retourner à la colonisation. Et parce que qui dit autodétermination dit aussi prise en charge de nos propres questions. Et cela va de soi, il faut qu'on prenne en charge notre propre sécurité, quitte à prendre ça dans la difficulté. Est-ce que ça va affaiblir le Sénégal ou pas? Non, je ne le pense pas. Si le Sénégal prend toutes ses responsabilités, nous avons une armée forte, nous avons une population jeune, nous avons une population qui est très, très patriotique, qui peut défendre ses propres frontières au prix de tout ce qu'il faut.
Le retrait annoncé des soldats français du Mali est plutôt bien accueilli par les populations sénégalaises qui pensent que c'est le moment de redéfinir les relations avec les anciennes puissances coloniales pour le Mali en particulier et les pays africains en général. Serina Abagay à Dakar pour VOA Afrique.
Voici pour terminer les réactions de quelques citoyens nigériens après l'annonce du redéploiement de la force française Barkhane. Ils sont au micro de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
La force Barkhane cherche quoi? On l'a redéployée au Niger, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait pour qu'il puisse susciter la motivation de la maintenir ou de la redéployer? Elle devrait agir le plus au Mali. Le Mali n'en veut plus. Mais pourquoi nous, on va accepter qu'elle revienne chez nous? Le Niger n'a pas intérêt. Les Africains, les Sahéliens en général, l'histoire, le temps a révélé la réalité. Et la réalité révélée par l'histoire, par le temps, n'est pas en faveur de la présence de Barkhane dans le Sahel.
Ce n'est pas nous seulement, et toute la jeunesse et l'opinion africaine ne veulent pas de la présence Barkhane. Parce qu'on considère que c'est une présence impertinente, parce qu'après 9 ans d'existence, les terroristes continuent à nous agresser et vous avez constaté que des individus viennent en moto et nous agressent. Malgré le déploiement de cette force-là, malgré les moyens mis à la disposition de cette force-là, on continue à nous agresser. Donc on pense bien qu'ils n'ont qu'à plier bagages et partir. Quitter notre territoire, peut-être permettre à notre armée d'accomplir sa mission régalienne. Et surtout que Barkhane est illégal et illégitime. Illégal parce que l'Assemblée nationale n'a pas parlé de Barkhane. Et illégitime parce qu'il y a un rejet total des populations. Donc je pense bien que le souhait que Barkhane plie bagage et retourne en France.
Je suis contre. On n'a pas besoin de présence militaire, en tout cas physique, engagée aux côtés de nos forces. On a besoin de matériel. On a besoin de renseignements. Nous avons les hommes capables, nos armées sont capables, elles connaissent le contexte de nos pays, elles connaissent les réalités de nos pays, elles connaissent, si vous voulez, le terrain mieux que quiconque. Ce qui nous fait défaut, très souvent, ce n'est pas le point de vue opérationnel, mais c'est le point de vue tactique. Ce sont les questions liées aux renseignements, les questions en lien avec le matériel, donc de pointe. Je ne pense pas que, même si la force Barkhane aujourd'hui serait déployée au Niger, si ça va être en tout cas une sorte de sitting ou si ça va être une prise de place, ça va peut-être être un redéploiement temporaire, le temps que peut-être au plan international les discussions puissent avancer. Et qu'une solution soit trouvée par rapport à la présence de ces forces européennes ou occidentales sur le sol de nos pays. Il est clair qu'ils ne viendront pas pour siéger. S'ils n'ont pas pu siéger au Mali, ils ne viendront pas pour s'installer au Niger. En tout cas, ça, c'est mon avis le plus profond.
Voilà, ce sera tout pour cette édition du Monde aujourd'hui. C'était une édition spéciale consacrée au Mali. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde Michel Joseph. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.